La mort idéale, alors c'est tout simple, moi c'est de m'endormir le soir et puis que ça soit fini, donc c'est dormir dans mon sommeil. Oui, c'est sûr, c'est l'idéal. Mais si ça n'arrive pas comme ça, j'avoue, je n'ai pas, je ne réfléchis pas. Je ne veux jamais penser à comment j'aimerais mourir, non ?
Paula, pour toi, c'est quoi la mort idéale ?
S'endormir et pas se réveiller.
Et pour toi, mourir, c'est quoi ?
C'est quoi ces questions ? Enfin, excuse-moi, j'ai 16 ans, je vais peut-être pas penser tout de suite à ma mort.
La mort idéale... La mort sans souffrir, déjà. Puis la mort soudaine.
Pourquoi pas vieille ?
Pourquoi pas vieille ?
Pourquoi pas ?
Pourquoi pas vieille ?
Pourquoi pas vieille ou comment débattre du vieillissement en se racontant ? Que se passe-t-il quand on vieillit ? Qu'est-ce qui se dit ? Qu'est-ce qui ne se dit pas ? Qu'est-ce qu'on se dit ? Qu'est-ce qu'on ne se dit pas ? Pourquoi pas vieille ? Réalisé par Alexia Guignard.
Pourquoi pas vieille ? Pourquoi pas vieille ? Pourquoi pas vieille ?
Pourquoi pas vieille invite Ultime Liberté dans les studios de Radio U à Brest. Donc bah, avant de commencer, en fait, on va se rencontrer autour de la question de la mort. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est de présenter l'association Ultime Liberté et de présenter aussi à Ultime Liberté l'association Pourquoi pas vieille. On va faire un petit tour de micro pour savoir qui est autour de la table et la personne qui commence, c'est celle qui va expliquer qui est Pourquoi pas vieille et qui est Ultime Liberté.
Alors, Anne, de l'association Pourquoi pas vieille. Alors, l'association Pourquoi pas vieille, c'est une association qui a d'abord peut-être un titre un petit peu provocateur, Pourquoi pas vieille ? Parce que c'est le sujet, c'est la vieillesse, et assumer le terme de vieux et de vieille. Alors, vieille, parce qu'effectivement, c'est une association de femmes. Elle existe depuis une dizaine d'années, depuis 2013. L'association travaille autour du vieillissement, avec la spécificité femme, donc le vieillissement au féminin. Donc l'association, c'est pas une association de loisirs, hein, c'est une association qu'on a un peu la prétention d'appeler association citoyenne. C'est une association brestoise. Et on a quand même pour objectif d'essayer d'interpeller les services publics sur cette problématique du vieillissement. On est très nombreux à être vieux. Et on va être, dans les 30 années prochaines, très, très nombreuses et nombreux, donc avec des besoins qui sont un peu particuliers. Donc l'association, elle a travaillé donc, sur différents sujets, donc l'habitat, parce que c'était un petit peu ce qui avait motivé les adhérentes au départ, enfin les gens qui venaient. On a différents ateliers, donc on a aussi organisé dans la ville de Brest beaucoup de marches exploratoires, hein, ce qu'on appelle pour justement... observer tout ce qui est mobilier urbain, la proximité des services publics, la possibilité d'avoir des lieux de convivialité, etc. On a un atelier lecture aussi, tous les mois on a un atelier lecture. Et on a un atelier radio aussi avec Alexia, donc depuis, qui est une adhérente de l'association Pourquoi pas vieille, même si elle est beaucoup plus jeune que la majorité d'entre nous. Sinon, c'est à peu près tout hein, ce qu'on fait.
Pour résumer, on peut dire que c'est une association qui réfléchit à la place des vieilles femmes sur l'espace public, peut-être.
Oui, puis les vieilles femmes dans la société aussi, le rôle d'aidante, d'accompagnatrice, parce qu'on sait que les femmes vivent plus vieux que les hommes, qu'elles vivent généralement seules, alors que les hommes vieillissent plus facilement à deux, et qu'elles sont souvent un support pour la famille, que ce soit pour les ascendants, quand on a 60-65 ans, à l'heure actuelle, on a encore des ascendants et aussi, regardez, des descendants, des enfants.
Et donc aujourd'hui, Pourquoi pas vieille rencontre Ultime Liberté.
Donc, Daniel de l'antenne Finistère Ultime Liberté. Alors, Ultime Liberté, c'est une association de la 1901 qui a pour objectif de modifier juridiquement le droit des personnes vers l'autodétermination, à savoir le droit de disposer de sa personne, de sa vie, de son corps, donc de sa mort, où on veut, quand on veut, comme on veut, et au moyen d'un produit létal accessible facilement. Voilà. Donc l'idée en fait qui est derrière, c'est de dire on ouvre le choix, on permet le choix de sa fin de vie, donc soins palliatifs, suicide assisté, euthanasie active, pourquoi pas cryogénique, pourquoi pas partir dans l'espace, enfin toutes les solutions, je dirais technico-médicales, qui seront possibles dans le futur, mais que chaque personne dispose de ce choix, quels que soient ses revenus, quel que soit son statut social. Alors qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de discrimination à ce niveau-là. Le deuxième objectif de l'association, c'est de proposer une solidarité autour de nos adhérents et de l'organiser, ça, au sein des antennes de l'association. Il y a une quarantaine d'antennes au niveau national. Et si on vient sur la Bretagne, donc il y a une antenne qui est à Rennes, qui fait à la fois l'Ille-et-Vilaine et les Côtes d'Armor, une antenne dans le Morbihan, et puis l'antenne qui Finistère, qui couvre tout le Finistère, où on est à 38 adhérents à peu près. Et dans ces adhérents, on est 5 membres actifs, mais on fait appel à tous les adhérents qui le souhaitent, pour organiser en fait la vie de l'antenne, donc réunir les adhérents, le fait 2 fois par an avec une réunion publique, essayer de faire un peu de lobbying auprès de nos politiques, de nos représentants pour faire connaître l'association. On pense aussi faire des ateliers directives anticipées l'année prochaine, puisqu'on a pas mal de matières et les directives anticipées, c'est quelque chose d'important et très peu utilisé en France, de l'ordre de 15%. Et dans le cadre de l'antenne aussi, on fait ce qu'on appelle de l'accompagnement, c'est-à-dire tout adhérent peut faire appel à nous. Et quand il veut, souhaite nous rencontrer, on se déplace et on fait un bout de chemin avec lui dans sa perspective de fin de vie, en essayant de mettre en œuvre ses souhaits en fonction des moyens légaux européens à notre disposition.
Ok, merci. Donc qui avons-nous autour des micros ? Est-ce que du coup chacun peut dire son prénom et puis Pourquoi pas vieille ou Ultime Liberté ?
Alors Marie-Vonne, alors je vais commencer parce que je pense que je suis un petit peu fière quand même que la rencontre ait lieu et je pense que c'est un peu, je suis un peu joué un rôle dans cette rencontre. Alors moi, Pourquoi pas vieille, ça date de 10 dizaines d'années à peu près, au moment où je suis partie en retraite, où j'ai commencé à réfléchir à ce qui allait se passer dans les années à venir. Et puis, tout ce qui était concernant ma fin de vie, c'était au départ la DMD à Brest, donc les directives anticipées que j'ai fait il y a un certain temps. Et puis un jour, ma rencontre avec Ultime Liberté, dont je suis membre, un jour donc est passé chez moi, à la maison, un ami que je connaissais depuis longtemps et avec lequel je suis engagée dans une autre association depuis un certain temps autour de la paix dans le monde. Et il est venu à la maison parce qu'on se voit assez régulièrement. Puis il m'a sorti cette BD là, en toute conscience en me disant voilà, ça c'est mon histoire. Et puis de là, c'est parti. C'était il y a quelques années. Donc c'est Patrice Bernardo, que vous devez connaître, de Toulouse, qui est coprésident d'ailleurs de l'asso. Et puis voilà. Donc du coup, après, cette BD, j'ai fait du lobbying. C'est-à-dire qu'après, avec les copines, en groupe de lecture, je l'ai fait passer. Et puis du coup, ça ne veut pas dire que c'était un sujet qu'on n'avait pas du tout abordé avant. Le sujet de la fin de vie et de la mort, on avait déjà abordé ça lors de nos cafés rencontres. Mais voilà, donc du coup, on en a plus parlé. Et donc ça débouche sans doute aujourd'hui un peu sur cette rencontre. Et donc je trouve que c'est important qu'on croise nos regards sur justement sur la mort, notre mort qui va nous arriver dans les quelques années. Et alors plus personnellement, moi, en termes de par rapport à ça, j'ai eu mon père a une fin de vie très difficile et je me suis dit à ce moment-là, je veux pas ça, quoi. Voilà, tout ça a été c'était les EHPAD, c'était, des choses horribles à vivre. Enfin, il y a longtemps, il y a au moins 20 ans peut-être, je ne sais pas. Mais ça a été ma première prise de conscience de ce que je ne voulais pas, en tout cas. Voilà.
Vas-y, Simone.
Oui, merci. Alors, il se trouve que je suis aussi adhérente maintenant Ultime Liberté.
Et donc, tu es membre de Pourquoi pas vieille ?
Oui, et par rapport à la pratique de l'accompagnement des fins de vie, j'ai pas mal participé à des accompagnements divers. Et il se trouve aussi que j'ai écrit sur la mort, et puisque j'ai fait une thèse qui s'intitulait « Traitement de la vieillesse et de la mort, famille et politique publique », et que ça remonte à un certain temps. C'est-à-dire que je suis un peu clivée parce que bon, j'ai travaillé sur ce sujet, que ce soit avec les partisans des soins palliatifs, que ce soit avec la DMD. Et on a mené aussi des recherches communes, en particulier avec des collègues suisses qui ont travaillé sur toute la population d'exit, par exemple, sur pourquoi les personnes adhéraient et tout ça. Et par ailleurs, bon, pour clore là-dessus, j'avais monté avec une collègue psychologue et pharmacienne l'EDU de soins palliatifs, et on a pendant un temps mené, organisé tous les ans des colloques ouverts à tous sur les soins palliatifs et les fins de vie. Donc ça fait un certain temps que je baigne dans le sujet, mais j'ai pris des années. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est moins de récapituler tout ça que ma réflexion à l'âge que j'ai, à savoir 75 ans. Et la réflexion à partir de ce que vous dites, le choix, le droit à, et les situations du mourir, du mourant, de la mort, de ses proches, et tous les paradoxes qui me semble propre à la situation française. Bon, et je ne sais pas très bien me situer. J'avoue que je préfère me situer sur, au jour d'aujourd'hui, quelles sont mes réflexions, mes chemins, mes questions, et en quoi je ne trouve pas ça très simple.
Eric, je suis retraité, 73 ans, et je suis adhérent à Ultime Liberté. Je suis aussi membre actif de cette association.
Moi, c'est Bruno, donc je suis aussi à Ultime Liberté.
André, donc membre d'Ultime Liberté, je suis moi aussi retraité. Il y a très longtemps que je m'interroge sur la vie, la mort. Je crois que ça m'a toujours habité, et depuis très très jeune. Et puis j'ai vécu cette douloureuse expérience, mais qui est une expérience malgré tout avec mon épouse il y a un peu plus de 4 ans maintenant.
Et il y a un livre aussi que vous avez écrit ce sujet.
Oui, c'est-à-dire qu'à l'issue du choix donc de l'interruption volontaire de vie de mon épouse, j'ai écrit un récit qui raconte un peu notre vie, qui a toujours été habitée justement par l'amour de la vie et le choix d'essayer de la rendre la meilleure et la plus belle possible, tant au sein de notre couple que aussi dans la société. On n'était pas repliés sur nous-mêmes, on était plus ou moins militants et habités de convictions. Et donc, ces convictions ont été jusqu'au bout pour ce qui concerne mon épouse, après qu'on ait tout essayé avec la plus grande volonté pour elle aussi, d'essayer de s'en sortir, de sortir des souffrances qui l'accablaient. Et sans solution, on est allé jusqu'au bout du chemin. C'est ce que j'ai essayé de raconter dans ce récit, qui est un témoignage et aussi un plaidoyer donc, pour la fin de vie.
Je suis Elba. Et j'appartiens à l'association des PPV depuis 3 ans. Et j'ai été, par mon histoire de vie, menée à passer une grande partie de ma vie à mon pays d'origine, en Amérique latine, et puis une autre partie de ma vie de travail, surtout en France. À propos du sujet de la mort en termes actuels, c'est une préoccupation qui existe depuis toujours, n'est-ce pas, dans toutes les sociétés du monde. Ce qui m'impressionne beaucoup, c'est que j'estime que la mort fait partie de la condition humaine et que l'acceptation de la condition humaine, ça veut dire aussi une acceptation d'une certaine quantité de choses qu'on ne peut pas contrôler. Malgré tout, j'ai travaillé comme infirmière en santé publique longtemps. Et ça m'a amené aussi à une réflexion sur le sujet de la mort.
Quelle est votre mort idéale ?
Ça se résume en deux mots. C'est la mort choisie, personnellement.
Moi, je reprendrais un titre de Jean Guyot, c'est « Mourir dans mon jardin », avec entouré, si possible, de personnes, paisiblement, sans souffrance, en pleine conscience. Voilà, ça, ce serait l'idéal. Après, est-ce que j'atteindrai cet idéal ? Nul ne sait. De toute façon, nul ne sait quand la mort vient, si elle me vient par surprise. Après, si je le sais, si elle est programmable, dans le sens où si on me découvre une maladie mortelle ou autre, là, je déciderai quand je veux m'arrêter.
C'est une bonne question, parce que qui renvoie à la question qu'est-ce qu'une mort idéale, qu'est-ce qu'une vie idéale. Aussi, faut déjà se poser cette question. Moi, c'est une question qui m'habite et qui me hante. On peut mourir heureux et apaisé si on a eu une vie satisfaisante. Je vais peser mes mots, je vais dire satisfaisante. Voilà. Et par exemple, c'est la raison pour laquelle, personnellellement, moi je tiens à faire la distinction entre le mot suicide et le mot interruption volontaire de vie, IVV. Pour moi, le suicide est un acte qui n'est pas forcément... qui conduit, est une pulsion qui conduit à un acte qui n'est pas forcément choisi. L'IVV, c'est un choix. Je pense que la mort idéale, en tous les cas une bonne mort, serait une mort choisie, effectivement, à condition d'avoir une vie qui précède au minimum satisfaisante.
Merci. Quelle est votre mort idéale ?
Alors, la mort idéale, alors c'est tout simple, moi, c'est de m'endormir le soir et puis que ça soit fini, donc c'est de dormir dans mon sommeil.
Et si ça n'arrive pas comme ça ?
Ben oui, c'est sûr, c'est l'idéal. Mais si ça n'arrive pas comme ça, j'avoue, je réfléchis pas. Je veux jamais penser à comment j'aimerais mourir, non ?
Moi, je ferai la même réponse que Anne, comme ça, spontanément, c'est-à-dire effectivement, je m'endors et je ne me réveille pas. Ça paraît après, assez facile comme ça. Parce que quelque part, malgré toute la réflexion qu'on a, la mort, ça fait un petit peu peur quand même. Enfin, c'est la fin de la vie qui fait peur en tout cas. En fait, c'est ce qu'il y a après. Il n'y a rien du tout pour moi. Donc, j'étais cette espèce de néant là, qui est là. Il est quand même un peu angoissant, quoi. Maintenant, effectivement, si ça n'arrive pas. Oui, je rejoins tout à fait ce qui a été dit, c'est-à-dire que bon, je voudrais pouvoir choisir et puis choisir surtout éviter toute déchéance, tout acharnement, et ça pose. Il y a une question que je pose là justement par rapport à l'aide active à mourir et à la position qu'on a vue, parce qu'on en a un petit peu parlé dans le reportage qui est sur le site là, sur de Marina Carrière d'Ancos, et qui va à un moment donné, elle va faire une partie de son reportage au Québec, et là les médecins disent de toute façon l'aide active à mourir, elle peut pas être mise en œuvre pour les personnes qui sont atteintes de maladies mentales de vieillesse, enfin les maladies type Alzheimer et Parkinson, et moi je crois que c'est ça qui me fait le plus peur. Et je voudrais mourir avant de devenir, d'être plus celle que je suis, quoi. C'est-à-dire ne plus avoir de discernement, ne plus pouvoir reconnaître les gens que j'aime, les gens qui sont proches. Enfin, voilà, ça, c'est une mort que je ne veux pas. Et plus que ce que je veux, peut-être que je sais ce que je ne veux pas et qui me conduirait après, effectivement, à avoir une envie d'une mort choisie, effectivement.
J'aimerais réagir à l'affirmation que la mort fait peur. Mais si la mort fait peur, et il y a aussi des moments, il me semble, où la vie fait peur. Et à un moment donné, quand la vie fait plus peur que l'envie de vivre, il peut arriver qu'on ait envie que ça s'arrête. Mais la mort ne fait pas systématiquement peur. Si je prends le cas, bon, c'est un témoignage personnel, mais si je prends le cas de mon épouse, je ne l'ai jamais vue aussi apaisée que le dernier jour, quand elle savait que ça allait enfin s'arrêter. Parce qu'elle souffrait depuis plusieurs années, et ces derniers jours, c'est elle qui m'a carrément porté. Moi, j'étais plutôt comme un zombie, sachant ce qui allait arriver. Et elle était sereine, déterminée, heureuse. J'ai vraiment à aucun moment eu l'impression, jusqu'au dernier moment, qu'elle avait peur de ce qui allait arriver. Même si elle n'avait pas envie de mourir, elle n'arrêtait pas de le dire. Elle voulait vivre, mais pas une vie comme ça. Donc, la mort fait peur, mais peut-être qu'un peu moins si c'est la vie telle qu'elle est qui fait encore plus peur.
Je reviens un petit peu là-dessus. C'est vrai que c'est évident qu'on a envie de, on n'a pas envie de mourir, légumes, perdre. Enfin, tout le monde a peur de ça, de perdre la tête, de devenir, ne plus reconnaître les siens, ne plus avoir de contact, etc. Ça, c'est évident. Alors après, sur la peur de la mort. Alors, c'est pas quelque chose qui me. La peur de la mort, enfin, au niveau métaphysique, ça me fait pas peur du tout. Mais je voudrais faire part d'une expérience. Alors, la mort, je l'ai connue comme bon, j'ai perdu ma mère, ça a été difficile, etc. Mais la chose la plus difficile, c'est que j'ai un de mes enfants qui était condamné, qui avait un cancer, qui était condamné. Donc, le verdict était tombé, il avait une tumeur qui était découverte, qui était déjà très volumineuse. Donc on avait dit non opérable, non amputable. Donc il était déjà âgé, hein, enfin il avait 40 ans. J'ai passé des longs moments avec lui toute seule parce que sa famille était partie en vacances. Et on a passé, je pense, 3 semaines à ne parler que de la mort avec lui. Et lui était tellement serein. Et il avait déjà préparé la cérémonie de sa mort. Il voulait une mort joyeuse. Enfin, il m'avait décrit dans le détail les musiques qu'il avait choisies, etc. Et il disait, je n'ai pas peur de mourir parce que je sais très bien que c'est pour ceux qui restent que c'est difficile, ce n'est pas pour celui qui part. Et donc, cette expérience-là, c'est un peu idiot, mais m'a donné une vision. C'est triste parce que je parle de mon fils et en fait il est toujours vivant parce que je reviens là-dessus. Mais bon, bref, au bout d'un an, il y a quand même un chirurgien qui a pris la décision de prendre le risque de l'opérer. Bon, depuis, il est unijambiste, mais il vit, donc il vit toujours. Mais pendant un an, j'ai fait mon travail de deuil avec lui, mais je l'ai fait. C'était tellement inéluctable que c'est curieux, hein, mais c'était accepté et je n'ai jamais eu l'idée de pleurer ou de pleurer devant lui. C'était quelque chose de. Il ne faut pas dire que c'était serein, mais c'était prêt en fait.
On parle de la peur de la mort. En fait, je pense que sont surtout les vivants qui sont inquiets, que les morts sont... D'abord, ils ne savent rien de tout ça, et ils sont tranquilles, n'est-ce pas? Une fois que c'est fait, on ne sait pas ce qui se passe. Et en fait, c'est surtout c'est ce qui précède la mort qui fait peur. C'est surtout ça, beaucoup plus que le passage même, n'est-ce pas? Soit qu'on a eu l'occasion, par différentes raisons, d'accompagner des gens qui meurent, etc. Mais c'est ce qui précède la mort, parce qu'on essaye, comme n'importe quel être humain, de que la personne qu'on aime souffre le moins possible, ou que soi-même, on souffre le moins possible. Mais ce passage qui précède, c'est ce qui est difficile d'assumer. Et c'est très difficile de faire le deuil anticipé. Hein? Puisque le deuil, de toute façon, vrai, va arriver quand l'autre n'y est plus. Hein? Et ce sont des étapes qu'on peut difficilement sauter, hein, même si on s'arrête à réfléchir là-dessus. Et d'autant plus qu'on ne met pas des mots là-dessus. On n'en parle pas du tout. Hein. On commence à parler plus, mais c'est toujours dans des cercles fermés. Et il faut mettre les thèmes sur la table et pas dans une conversation quelconque. Parce que si je suis à table avec des amis et je me mets à parler de mort, bah, ça tombe pas bien, quoi. Y a des gens qui répondent, effectivement. Bah, tu sais, hein, parlons de choses plus gaies, des choses... On n'intègre pas la mort à la vie. Pour moi, ça, c'est très important.
C'était Pourquoi pas vieille avec les associations Ultime Liberté et Pourquoi pas vieille, une émission en deux parties sur la mort idéale, une émission réalisée par Alexia Guignard.